Parents et amis.
Parents et amis.
Voici Sarah.
Voici Sarah.
Sarah Ursula Terrier.
Ursula Terrier.
Extraordinaire, Sarah. Comment ça va, Sarah, ce matin?
Hey, super bien. On est de bonne humeur.
On est de bonne humeur, certain.
Le bonheur et l'harmonie.
Ouais, le printemps s'en vient. Là.
Exact.
Je commence avec... on va faire le relais par rapport à une chronique qu'on a eue hier avec EA Sports is in the house. EA Beauregard sur un texte qui a été partagé, qui a été publié sur le Journal de Québec par quelqu'un de l'UQAM qui a des propos quand même intéressants. C'est sûr que c'est in your face, mais je la pose carrément. Est-ce que l'école serait pas devenue un gros CLSC?
Ben, écoute, le texte, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu pour essayer de me faire une tête sur tout ça.
Il y a du vrai là-dedans, toutefois, là.
La question est intéressante, puis tu sais, clairement, la manière dont c'est amené, c'est polarisant, ça fait réagir nécessairement. J'ai envie de dire, c'est une vision qui en affronte une autre, étant donné que, bon, c'est une vision plus philosophique, idéologique de l'éducation, mais c'en est une qui ne correspond pas vraiment à la réalité de ce que les gens vivent sur le terrain, ni à une vision des intervenants professionnels qui travaillent auprès des jeunes dans les écoles. Donc, c'est sûr que, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec tout ce qui est amené. Il y a certains éléments qui peuvent être vrais, notamment quand on parle de dilution, on va dire, du temps accordé à l'instruction pure et dure, là, des matières académiques, dans le sens que, c'est vrai que maintenant, les enseignants puis certains organismes qui peuvent collaborer peuvent passer du temps en classe sur des sujets comme l'éducation à la sexualité, la prévention de l'intimidation, ce genre de choses-là. Puis c'est vrai que ça occupe du moins une certaine proportion du temps qui pourrait être consacré à d'autres volets académiques. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord. C'est sûr que, il y aurait peut-être... Il y aurait peut-être des façons de faire différentes qui pourraient être intéressantes. Cependant, pour une majorité d'autres points, je dois dire que je suis vraiment en désaccord avec ce qu'elle approche. Je trouve que c'est une analyse qui est quand même simplificatrice, réductrice à certains égards. L'autrice sous-entend là, pratiquement que les services psychosociaux contribuent là, en fait, aux problèmes des jeunes. Donc, c'est assez particulier, là, j'ai envie de dire, comme point de vue. Je ne sais pas si c'est son intention réelle, mais du moins dans la formulation puis la façon dont c'est amené, c'est quand même comme ça que la majorité des gens le comprennent.
OK. Ton point numéro un, recadrage, la vraie question n'est pas les services, mais l'augmentation des besoins chez les élèves.
Effectivement. Écoute, l'intervention psychosociale dans les écoles, je pense vraiment pas que c'est un luxe. Je pense plus que en fait, c'est vraiment la vraie
parce qu'il y a un besoin réel. Donnons les dernières informations qu'on a.
Ouais.
Il y a de la violence dans les écoles de plus en plus. L'histoire du lac à tortue. Il y a des classes turbulentes, il y a un prof qui pète une coche, mais il y a eu d'autres témoignages qu'on a lus au cours des derniers jours, des jeunes qui mordent, qui crient, qui menacent, je vais te pisser dessus si tu me laisses pas aller pisser aux toilettes. Tu sais, il y a un climat qui est pas toujours violent, mais un climat impoli et de je m'en foutisme et de... Il y a un climat de désorganisation dans l'éducation.
Bien, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine d'approfondir le sujet. T'sais, en fait, la vraie question, c'est plutôt pourquoi les besoins des enfants qui rentrent à l'école sont-ils rendus aussi grands de un? Et de deux, malheureusement ou heureusement, indépendamment comment on le voit, mais les services psychosociaux, en fait, sont pratiquement une condition nécessaire pour le déroulement d'une bonne capacité, en fait, à transmettre tout le volet éducatif. Je te donne des exemples.
Si t'as pas ce filet-là, c'est l'anarchie.
Carrément. Je veux dire, c'est déjà hyper difficile, les gestions de classe. Puis, tu sais, je vais te donner deux exemples super concrets, OK? Mettons, tu as une classe au primaire, puis tu as une enseignante qui est seule dans la classe et qui n'a pas de ressources, OK? Là, actuellement, on estime qu'au Québec, un jeune sur quatre a des particularités, a des problématiques là, spécifiques. Un sur quatre, OK? Fait qu'on peut se dire que, mettons, pour une classe en moyenne de 24 élèves, on aurait environ 6 élèves qui ont des besoins particuliers qui peuvent toucher, par exemple, à un TDAH avec impulsivité, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble d'apprentissage, peu importe, OK? Puis, mettons que tu en as un dans tout ça qui, une journée, mauvais début de journée, puis éventuellement de fil en aiguille, ça fonctionne pas, il se désorganise, il fait une crise dans la classe, et là, l'enseignante est seule pour devoir gérer l'élève, puis elle passe 30 minutes à essayer de faire une gestion de crise. Ben, pendant ce temps-là, les 23 autres élèves, est-ce qu'ils sont en train d'apprendre?
Non, ils sont en recul, sont dans le néant, ils font rien, en fait. Ils s'occupent, puis peut-être qu'il y en a des petits fauteurs de troubles là-dedans qui commencent à semer le bordel.
OK. Fait que si maintenant, il y a une éducatrice spécialisée ou une psychoéducatrice qui vient prendre le relais puis qui prend l'enfant puis qui gère la crise, est-ce qu'on permet aux 23 autres enfants de continuer à apprendre en classe avec l'enseignant?
Tu permets surtout à la prof de faire sa job ou au prof de faire sa job, dans le fond.
OK. Excellent. Maintenant, on a un autre enfant qui, par exemple, a un trouble anxieux. Donc, à cause de son anxiété complètement envahissante, il est figé. Il n'arrive pas à avancer dans ses apprentissages. Il a un texte à écrire. Il n'est pas capable d'écrire. Ben, si, exemple, on le laisse aller, on pourrait interpréter « Ah, ce jeune-là, il n'est pas motivé, il est paresseux, il n'est pas impliqué dans ses études. » Puis, on le laisse aller, puis éventuellement, la problématique s'aggrave. Puis, bon, voilà, mettons un jour ou l'autre, pourrait potentiellement décrocher l'école. Alors que s'il est pris en charge, on l'aide à travailler sur son anxiété. Puis, je rappelle que le but, en passant, des services psychosociaux, notamment nous en psychoéducation, c'est de rendre les personnes que l'on rencontre autonomes. Fait que c'est sûr qu'au début, il y a comme une période de service plus intensif pour réussir à aider la personne à mieux se comprendre au niveau des problématiques qu'elle vit, mieux réussir à les exprimer, puis ensuite l'outiller pour que la personne devienne autonome et qu'éventuellement, elle n'ait plus besoin de nous. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à rendre les personnes dépendantes de nos services. Au contraire, on vise à les rendre fonctionnels, résilients, à ce qu'ils réussissent à développer leur capacité d'adaptation, puis qu'ensuite, il n'y ait plus besoin de nous. Donc, on va réussir à travailler avec le jeune, puis ensuite, il va réussir, à fonctionner.
Puis il y a des beaux success stories de jeunes qui ont été accompagnés. Tu as besoin d'un accompagnement temporaire, puis ensuite, tu gradues. Le but, c'est la graduation aussi, c'est-à-dire de passer de secondaire 1 à secondaire 2. Et que tu respectes ta cohorte et le développement éducatif. Le but, c'est ça. Là. C'est comme j'aime pas le terme béquille, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est un appui pour t'aider à rester dans le groupe. C'est un peu ça, ma vision. C'est-tu correct, ça?
Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, faut pas oublier aussi que dans les dernières années, justement, je faisais lien là, dans mon petit plan de match avec un article, plusieurs articles qui sont sortis, notamment au mois de février. On ferme de plus en plus de classes spécialisées pour intégrer des élèves qui ont des besoins particuliers dans les classes régulières. Mais ça, nécessairement, ça donne des classes qui sont beaucoup plus hétérogènes. Donc, d'avoir l'attente qu'une enseignante ou qu'un enseignant puisse gérer une classe avec le même nombre d'élèves, sans aucune ressource, avec 6, 7, 8, 9, 10 élèves des fois qui ont des besoins particuliers, bien, c'est complètement irréaliste. T'sais, les besoins actuels en 2026 ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. On peut pas comparer les deux situations. On regarde aussi les réalités familiales. Il y a un article qui est sorti la semaine passée. On a un parent sur deux qui vit de la détresse psychologique à la suite de la naissance de son enfant, puis un sur trois qui vit des symptômes dépressifs et anxieux. Donc ça, un parent qui va pas bien, je suis désolée, mais c'est sûr que ça a des répercussions sur l'enfant.
Tabarouette! Puis parfois, ça va pas bien, là?
Ben,
à la naissance de l'enfant, t'es anxieux. Mais c'est sûr que moi, je me souviens, quand on a eu les deux enfants, les pères, on est à l'extérieur de ça, c'est les mères qui ont toute la charge, vous êtes extraordinaire. Les gars, c'est un peu inutile. C'est sûr qu'on est anxieux, les deux parents, à différents égards. Tu me suis, tu l'as vécu de toute manière, Sarah. Absolument. C'est sûr qu'il y a de l'anxiété. Souviens-toi de la première ride quand tu reviens de la maternité, de l'hôpital vers la maison.
Ben oui, avec un petit bébé, puis là, mon Dieu, t'es toujours...
J'ai jamais fait mes stops comme ça.
Oui,
je pense que j'arrêtais le char.
Clairement. Oui, il y en a plusieurs qui passeraient proche, je pense, ou qui arrêtent pour vérifier le bébé. Tu corriges, c'est ce contrôle. Okay.
Hey, je respectais la limite de vitesse sur toutes des affaires que je fais encore aujourd'hui, là, bien évidemment.
Ben oui.
Ben, il y a une hypervigilance là, qui peut s'installer. Oui. Puis, tu sais, je comprends que là, ce matin, dans le cadre de la chronique, bon, on a un temps limité. Là, je pourrais en parler longtemps de tout ça.
Oui.
Mais il faut comprendre quand même qu'on prépare beaucoup, beaucoup les jeunes familles pour tout ce qui est le volet santé physique, le temps de la grossesse, l'accouchement. Mais on prépare très peu les familles à ce qui s'en vient après. Tu sais, la fameuse période postpartum, là, les mamans, autant que les papas, sont pas particulièrement préparés. Puis pour plusieurs, c'est la période qui est la plus difficile. Fait que, tu sais, ça, ce serait un aspect sur lequel, possiblement, on devrait davantage travailler.
Totalement raison.
Par la suite,
et le couple.
Ben,
le couple, on s'oublie, oui. C'est l'enfant qui est en haut. Avec raison, vous me direz, mais c'est tough là, pour le couple.
Ben, tu sais, par le passé, je pense que... Puis, tu sais, bon, j'en ai déjà parlé. Je le redis, cette expression-là, je l'adore. Ça prend un village pour élever un enfant.
Ouais.
La majorité des parents qui viennent me rencontrer qui sont comme un petit peu en détresse. Quand je pose les questions, avez-vous un filet de sécurité autour de vous? Avez-vous des membres de votre famille qui peuvent vous aider, des amis qui peuvent vous donner un coup de main? Si vous avez besoin de prendre une pause, sur qui est-ce que vous pouvez vous appuyer? Puis la majorité du temps, c'est ces personnes-là qui vivent de la détresse, qui n'ont à peu près rien ni personne. Fait qu'ils se retrouvent seuls avec une charge qui devient parfois démesurée. Fait qu'ils cumulent à ça des symptômes un peu dépressifs, anxieux, parce que t'es épuisé, hein, mais il y en a beaucoup, là, des bébés qui ne dorment pas très bien la nuit. Ben ça vient que si on ne met rien en place, puis tu sais, je pense que ça, c'est un bout qui est déficient, puis c'est pour ça qu'il y a des choses aussi qui atterrissent dans la cour de l'école, c'est que c'est comme un peu la première porte d'entrée à certaines problématiques. En fait, c'est un miroir de la société, mais dans la période 0-5 ans, des fois, il y a des choses qui auraient pu ou qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas nécessairement été faites, puis là, ben tu as des problématiques qui s'accumulent au fil du temps, notamment des difficultés dans la dynamique familiale, par exemple. Puis un parent qui ne va pas bien, ça a des répercussions sur l'enfant.
Mais par contre, dans les années 60, 70, dans mes années à moi, 70, 80, ça existait, ça. Moi, je voyais des gars, des filles qui étaient plus en retard sur les processus, qui suivaient moins. Je voyais des problèmes de famille chez nous. C'était pas hier. Vous connaissez peut-être un peu plus mon histoire. Bon, tu sais, j'avais pas de ressources et tout ça. Bon, c'est organisé aussi. Tu sais, j'essaie de me faire l'avocat du diable un peu là-dedans et de dire, on peut pas mettre une ressource par individu à un moment donné. Chaque personne a des tourments dans sa vie. Surtout ado, à ce moment-là, on se cherche. C'est la quête de l'identité sexuelle, etc. Et c'est une période un peu plus tourmentée. Mais tu sais, on peut pas donner un psychologue par... Parado, là. Hein? Ouais,
non,
tu fais le pas.
Je pense
raconte-moi,
que...
mais raconte-moi. Puis, tu sais, tu comprends-tu?
Je
comprends ton point.
Non plus, dans le sens que ça reste que c'est une minorité d'élèves qui vont recevoir des services dans les écoles. Je veux dire, la majorité des élèves n'en ont pas.
Mais c'est-tu comme ça ailleurs, dans les autres provinces et dans les autres États américains, où on est trop, on couvre trop? J'essaie de me faire l'avocat du diable, encore une fois. J'essaie de comprendre un peu plus la dynamique, mais dans un décor un peu plus large. On est-tu plus dans l'encadrement psychosocial au Québec qu'ailleurs, ou c'est vraiment une tendance mondiale ou dans le monde occidental?
Je te dirais qu'au niveau nord-américain, c'est assez similaire au Québec. Il n'y a pas de différence majeure ici au Québec.
En
si
Ontario,
on compare,
c'est ça?
Avec
dans
d'autres
l'État de
provinces.
New York.
Peut-être que, bon, il y a certaines provinces canadiennes que, justement, au niveau petite enfance, il y a peut-être plus d'accessibilité à des services, ce qui fait que quand les jeunes arrivent à l'école, ben des fois, il y a des situations qui ont été prises en charge. Nous, actuellement, notre problème, c'est qu'on a une saturation dans les services. Fait que le programme Agir tôt, qui est pour le 0-6 ans, c'est saturé. Les CLSC...
Mais est-ce qu'on veut donner trop de services? C'est ça mon point. Puis je suis pas contre les services, là. Mm-hmm. Suivez-moi, c'est correct. Peut-être que c'était trop fling-flang en 74 quand j'étais TQ au primaire. C'est correct. Mais est-ce qu'on est... Je pose une question ouverte, là. Est-ce qu'on serait pas trop dans l'ultra-spécialisation des suivis?
Ben moi, dans ma perception, non. Mais la question que je te pose, est-ce qu'en 1974, le taux de décrochage scolaire était le même qu'aujourd'hui?
Ben moi, j'ai connu des gars qui ont doublé. Mais c'était rare. Puis c'est sûr qu'ils étaient ostracisés un peu. Tu sais, ah, il a redoublé.
Parce qu'auparavant,
c'était plus rough dans ce temps-là.
Bien, la compréhension des problématiques n'était pas nécessairement la même, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient tout simplement étiquetés comme étant turbulents, dérangeants, pas motivés, moins intelligents.
Mais je les connais, les turbulents. Ils ont bien réussi dans la vie. Ils ont passé au travail.
Ça n'empêche rien, là. Mais dans le sens que c'est des jeunes, maintenant, je pense qu'on cherche vraiment à ce qu'il y ait une égalité des chances pour les jeunes qui ont des problématiques. On veut vraiment que tous les jeunes soient instruits à l'école, puis on cherche à les garder sur le banc de l'école également. Alors que par avant, ben, il y avait peut-être moins de mesures qui étaient mises en place par rapport à ça, ce qui faisait aussi que ben, il y avait plus de jeunes qui lâchaient l'école plus jeunes.
Mais c'est ça. Ça se peut-tu que ça soit quelque part entre les deux? Tu sais, parce que c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels, je vais le dire de cette façon-là.
On est passé d'un extrême à l'autre, à mon avis.
Mais en même temps, c'est aussi vrai qu'on surprotège les jeunes, là.
C'est un petit peu mon point, là.
Il y a 150 ans, un jeune de 14 ans lâchait l'école, fondait une famille.
Il a travaillé à la ferme. C'est sûr que.
Mais c'est ça, les réalités n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que je dis que c'est dur de comparer.
Je pense que la réalité, parce que c'est vrai qu'on surprotège les jeunes à l'heure actuelle. Ils sont tellement précieux.
Sursuivi, surprotégé.
Exactement, exactement.
C'est un petit peu mon point.
Mais en même temps, il y a beaucoup de professionnels dans les écoles puis pas assez de profs.
Ben moi, j'ai envie de dire, si tu poses la question aux profs, ils vont te dire qu'il n'y a pas assez de professionnels dans les écoles puis qu'il y en aurait besoin
ça
de
leur
plus.
Ça ne leur permet pas d'enseigner.
Dans le sens qu'il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, oui, il manque
nuance.
De profs, mais tout est une question de nuance. Par rapport à ça, c'est impossible de tomber dans les extrêmes. Je veux dire, peu importe que tu ailles dans un extrême ou dans l'autre, tu vas être champ gauche. Là. Je veux dire, tu n'as pas le choix d'avoir une position qui est nuancée puis qui est équilibrée. Il n'y a pas de réponse parfaite. La seule chose que je dis, moi, somme toute, c'est au final, là, c'est que les services psychosociaux dans les écoles actuellement ne sont pas la cause des problèmes. Ils permettent, au contraire, un minimum, une
c'est
forme de... Ben oui, voilà, tu sais. Puis je veux dire, c'est comme si tu disais, étant donné qu'il y a encore des incendies, ça signifie que le travail des pompiers marche pas ou ne sert à rien ou peu importe. C'est comme, ça fait pas de sens, là. Fait que tu peux pas blâmer les intervenants dans les écoles parce que les jeunes ont des problèmes. Tu sais, tu peux pas... En tout cas, nous, en psychoéducation, ça reste que notre mentalité, c'est que tu peux pas accueillir un jeune puis minimiser ce qu'il vit puis dire, ben écoute, bon, OK, t'as été exposé à de la violence à la maison, t'es perturbé de ça, à cause de ça, tu ressens un mal-être.
Je comprends.
Tu t'es
si moi, prenez mon histoire à moi que vous connaissez, là, honnêtement, j'aurais vu à peu près 16 spécialistes. J'aurais jamais été école. D'après moi, la géographie, j'aurais pris ça d'un livre à 24 ans. Là. T'sais, j'aurais, si ma situation que j'ai vécue jeune, que vous connaissez, je la vis aujourd'hui, là, j'ai juste des rendez-vous avec des spécialistes. Toute la journée. Puis là, à un moment donné, je me réveille à 24 ans et je me dis, OK, la Russie, c'est où? Les États-Unis, tout ça, je pars à l'école, j'ai juste rencontré des spécialistes.
Mais là, il ne faut pas exagérer. Là, on tombe dans la caricature
ben,
un peu aussi.
Quasiment.
Je veux dire, un jeune qui est en crise, là, somme toute, là, oui. Mettons, là, on synthétise là, au maximum. Là. Un jeune qui est en crise, est-ce qu'il est disponible pour les apprentissages?
Ah non. Les cas extrêmes, on est d'accord.
Bon.
Là.
Mais moi c'est de ça que je parle. Puis en fait, c'est ça mon problème avec cet article-là, c'est que ça surgénéralise comme si tous les jeunes bénéficiaient de services puis qu'il n'y en avait pas un assis dans une salle de classe. C'est archi faux.
Non, il est un peu caricatural, j'en conviens.
C'est pas ça, la réalité.
Non, ça m'a étonné comme article, mais il y a du vrai là-dedans, mais effectivement...
Il y a des bouts qui sont vrais, effectivement, mais il y a des bouts où...
Je suis d'accord.
On tombe dans les extrêmes, puis tant qu'à moi, ben il y a rien de bénéfique là-dedans. Ouais. Après ça, est-ce qu'il y a de la surprotection? On en a déjà parlé. Ben oui, puis tu sais, bon, le jeu risqué, let's go, on encourage ça. C'est sûr qu'il y a des aspects qui sont problématiques. Il y a rien de parfait. Mais tu peux pas généraliser à outrance de cette façon-là. Ça n'apporte rien de constructif dans le débat.
Ouais, je comprends ton point. Sarah, c'est tout. T'es obligé de se laisser.
Ah, je sais. On aurait pu continuer longtemps, mais
je
comprends.
Je sais bien. Hey, salut, bye. Merci beaucoup.
Bye bye.